1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
L'émission d'En Jazz, ton émission du midi, 418-971-1021 pour interagir. On a des auditeurs qui nous ont écrit par rapport à notre chronique avec Lambert Drainville. Excellente chronique qui sera disponible sur notre page YouTube. Claude André qui écrit « Ouais, Jean-François Roberge qui est surpris du gros bon sens. Aïe aïe, t'as entièrement raison. » Continue d'interagir, 418-971-1021. D'ailleurs, je suis convaincu que l'entrevue qu'on va faire avec Alex Boissonneau dans quelques secondes va vous faire réagir. Aujourd'hui, moins 6 faible neige sur Québec. Demain, moins 3 ciel dégagé. Moins 6 ensoleillé pour vendredi. Donc, on a une belle semaine d'hiver. À la circulation, est-ce qu'il y a la nouveauté, Mathias?
Non, toujours l'accident présentement là, sur Robert Bourassa à hauteur de Le Bourgneuf en direction nord. Là, ça crée un léger ralentissement dans le secteur. C'est la voie droite qui est bloquée.
Il n'y a pas juste à la CAQ qu'on chicane par rapport au dossier de l'immigration et au programme Expérience Québec. Le PQ et le maire Marchand sont venus au coup, je vais le dire comme ça, par voie de parole et de communiqué, alors que Alex Boissonneau, député d'Arthabasca et porte-parole en immigration pour le Parti québécois, a mentionné à Bruno Marchand, est-ce que vous avez une idée de l'impact de rendre permanent tous ces gens qui sont à Québec présentement? Et ça tombe bien parce qu'on a le principal intéressé au bout du fil. Monsieur Boissonneau, merci de participer à l'émission.
Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Monsieur Boissonneau, la CAQ se range vers finalement une espèce de clause grand-père, là, je vais l'appeler comme ça. Oui. Pourquoi le PQ ne va pas dans le même sens?
Ben, en fait, c'est ça. Donc, juste pour être bien clair, moi, la question que j'ai posée hier, c'est est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Est-ce qu'on peut savoir de combien de personnes on parle puis quels programmes sont touchés? Parce que clause grand-père, nous autres, on est d'accord. On le dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une clause grand-père pour les travailleurs étrangers qui se trouvait ici en 2025, on a suspendu le programme du PEC, mais qui était là en fonction ou dans les programmes qui relèvent du gouvernement du Québec. Donc, depuis 2024, nous, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il s'agit de permanentiser des gens qui se trouvent sur le territoire, il faut déjà utiliser les ressources qu'on a, des gens qui se trouvent en région, dans des secteurs d'économie où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais pour ça, décréter un moratoire sur l'immigration économique permanente à l'international pour justement favoriser les gens qui sont déjà ici. Donc là-dessus, on s'entend. Mais quand on parle de Claude Grand-Père, c'est là que j'essaie d'avoir ces informations-là, que je parle des chiffres, c'est qu'on veut savoir exactement de quoi il s'agit. Qui pourrait être admissible et en vertu de quel programme?
Donc, autrement dit, c'est un peu le clause grand-père à la Bernard Drainville que vous voulez faire. Et là, je m'explique. Bernard Drainville dit « On ferait une clause grand-père, mais pour des gens qui sont en santé, des gens dans les régions pour pas perdre des entreprises, des gens qui sont dans des métiers, justement, où on manque de main-d'œuvre. » Fait que le PQ est un peu dans cette optique-là. Est-ce que je comprends bien?
Bien, le PQ balise les clauses grand-père. Puis en ce sens-là, c'est effectivement pas une proposition là où on généraliserait la clause grand-père à tout le monde. Dans la mécanique de ce que propose Bernard Drainville, je pense qu'il cite peut-être plus certains secteurs ou certaines régions. Là, je vais le laisser avec ça. Mais pour nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que le gouvernement du Québec respecte sa parole aussi. Là. S'il y a des gens qui sont venus en vertu d'une mission économique à l'international, où on les a recrutés en leur disant « Vous allez avoir cette voie facile-là par le PEC », à la résidence permanente. Ce qu'on dit, c'est qu'on va respecter les règles pour les gens qui étaient là en vertu des programmes québécois. C'est les gens qui étaient sur le territoire en 2025 quand on a suspendu le PEC, mais on balise ces personnes parce que ça augmente très rapidement. Là. Quand on demande, par exemple, est-ce que l'ensemble des travailleurs temporaires sur le territoire de la ville de Québec devraient rester, ben ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire les gens qui avaient un permis de travail en vertu de programmes fédéraux, du PMI, par exemple, ou même des demandeurs d'asile qui avaient un permis de travail. Si on parle des droits acquis pour le PEC, est-ce qu'on parle des étudiants aussi? Ça peut changer de façon importante les nombres dont on parle. Parce que, je le rappelle, l'immigration a des conséquences. Ça ne change pas. Là. On a beaucoup focusé, évidemment, sur le PEC, parce qu'il y en est question en ce moment. Puis je comprends qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Mais pour ce qui est de l'immigration, il faut respecter la capacité d'accueil pour le bien des gens qui sont ici depuis une ou 15 générations. Là, ça demande.
Ouais. Est-ce que l'immigration qui est déjà bien établie ici, parce qu'il y a plusieurs jeunes justement qui sont dans cette situation-là, établie depuis 2-3 ans, la maison, la famille, les enfants, l'école, est-ce que ça a une conséquence? Vous considérez que ces gens-là ont leur place ici à Québec?
Ben, moi, je vous dirais que c'est précisément cette immigration-là qu'on veut favoriser. C'est ce qu'on disait dans notre plan depuis 2021. Des gens qui se trouvent en région et plus particulièrement dans les endroits où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, évidemment, ce qui se passe à Montréal et à Laval, c'est différent de ce qui se passe à Québec. Mais là, il va falloir avoir les bons chiffres. Moi, ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas ça du gouvernement actuel parce que C'est là aussi le problème, c'est que la CAQ tire dans toutes les directions à l'heure actuelle. On a un ministre de l'Immigration qui est complètement désavoué, le ministre Roberge, qui se place en porte-à-faux dans ses politiques avec la candidate qui l'appuie à la direction de la CAQ, là, ça, donc Christine Fréchette, qui elle-même a causé tout le problème qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Lorsqu'elle était ministre de l'Immigration, Christine Fréchette est celle qui a sorti le PEC des seuils d'immigration permanente et qui a fait qu'il y a eu une explosion des demandes, qu'il y a eu des gens qui ont eu des fausses attentes, puis qu'il y a plus de temporaires sur le territoire. Donc, il va falloir aussi que le gouvernement arrive avec les chiffres de ce que ça veut dire. Qui serait touché par une clause grand-père, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, parce que François Legault lui-même est intervenu hier en disant « Est-ce qu'on parle de 350 000 personnes qui pourraient appliquer sur le PEC, qui seraient réanimées, par exemple, par Christine Fréchette? Est-ce que c'est la fourchette du ministre Roberge qui, lui, parlait d'un 250 000 à 300 000 personnes? » C'est beaucoup de chiffres, là, je ne veux pas mêler vos auditeurs, mais il y a quand même une complexité dans ce dossier-là. C'est pour ça que c'est important de parler de la même chose.
Hein. Vous demandez plus de précisions de la part du gouvernement provincial. Vous avez demandé certaines précisions également au maire de ville, notamment le maire de Québec et la mairesse de Montréal. Le maire de Québec qui vous a d'ailleurs répondu hier en indiquant que pour lui, vous prenez le problème à l'envers, puis vous a demandé de tout d'abord avoir une réflexion vous-même sur les effets de leur départ de ces personnes-là sur l'économie québécoise. Qu'est-ce que vous répondez au maire?
Ouais. Ben moi, je peux répondre qu'on a présenté en 2024 un plan juste sur l'immigration d'à peu près 100 pages où on traite du problème avec le pas de recul du problème. Je dirais de la situation, parce qu'en même temps, l'immigration, ça demeure positif. Là. Je ne veux surtout pas que les gens pensent le contraire, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit fait en respect aussi de nos capacités d'accueil. Donc, nous, on a pris un pas de recul pour voir qu'est-ce que ça veut dire exactement immigration temporaire, immigration permanente. Il y a la question des demandeurs d'asile, il y a la réunification familiale. Faut prendre ça dans l'ensemble. Donc, moi, tout ce que j'ai demandé au maire, y compris le maire Marchand, c'est combien de personnes vous avez en tête pour l'octroi des droits acquis ou des clauses grand-père, en vertu de quel programme. Je comprends que le maire Marchand, hier, a parlé qu'il aimerait garder les travailleurs temporaires qui se trouvent sur le territoire. Je pense qu'il disait les immigrants temporaires sur le territoire, mais ça veut dire quoi exactement? Puis de là, en ayant ces chiffres-là, on pourra avoir une discussion sur les bonnes politiques publiques. C'est juste ça.
Parfait. Vous, au PQ, présentement, vous êtes à quoi au niveau des seuils d'immigration que vous proposez si vous prenez le pouvoir?
Pour l'immigration permanente, c'est 35 000. Pour l'immigration temporaire, on propose de réduire ça à peu près de moitié à 250 000, 300 000, en favorisant, je disais, les régions et les secteurs économiques où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Parce que c'est documenté. Ça, c'est vrai, puis il va falloir le dire à un moment donné, il faut avoir un discours responsable là-dedans, c'est documenté que l'immigration n'est pas la seule réponse à la pénurie de main-d'œuvre. C'est une des réponses, c'est bien, encore une fois, c'est quelque chose de positif, l'immigration, mais ça ne peut pas passer que par ça, parce que l'immigration cause aussi une augmentation de la demande en main-d'œuvre dans d'autres secteurs. Évidemment, les gens qui arrivent ici consomment des biens, consomment des services, consomment des logements, ont accès à des services qu'on devrait avoir par les banques alimentaires, par exemple. Tout ça, ben, ils y ont accès, c'est normal, mais évidemment, ça a un impact, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler responsablement d'immigration, en comprenant la réalité des gens qui sont ici, on est très sensible à ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des attentes qui ont été créées, le gouvernement du Québec doit y répondre, mais en même temps en respectant aussi le bien commun en général.
On se souvient tous de la fameuse parole de Jacques Parizeau après le référendum de 1995, où on a perdu le référendum en raison de l'argent et du vote des immigrants. Comment allez-vous faire, vous qui proposez un référendum dans le premier mandat, pour convaincre justement la clientèle immigrante d'adhérer au pays du Québec?
Ben, vous seriez surpris de voir à quel point il y a les immigrants sont derrière nous ici, les gens qui sont ici depuis une génération, qui sont des Québécois comme les autres par ailleurs, là, qui sont d'accord pour dire que l'immigration c'est positif si on le fait correctement, puis qu'il existe une telle chose que la capacité d'accueil. Il y a des experts qui sont sortis là-dessus, il y a des banques qui nous ont mis au fait, là, qu'ils ont mis en garde aussi d'une augmentation soudaine et incontrôlée de l'immigration. Le gouvernement Trudeau était même au courant, ça. Justin Trudeau a pris des décisions en matière d'immigration qui ont touché directement le Québec sans qu'on soit consulté, alors que des gens lui avaient dit dans son cabinet qu'il fallait faire attention. Donc, soyez rassurés, là, et nous, en tout cas, on l'est. On est avec plusieurs personnes qui sont avec nous, qui sont issues de l'immigration, qui sont issues depuis une génération ou depuis quelques années, puis qui comprennent la chose tout à fait comme nous. Une bonne politique d'immigration, ça sert les gens qui sont ici depuis une génération ou 15 générations, ça fait pas de différence.
Alex Boissonneau est député d'Arthabasca et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'immigration, d'intégration et de francisation. Merci beaucoup, M. Boissonneau, pour votre temps à l'émission d'Enjeu ce midi.
Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir. C'était Alex Boissonneau du Parti québécois. Dans le fond, Mathias, plus on parle avec des politiciens, plus il faut juste mettre des chiffres sur la table.
Oui, des chiffres puis des objectifs clairs. Puis je trouve la nuance intéressante quand même de dire c'est bien beau avoir réouvrir des programmes, c'est bien beau créer d'autres programmes. Mais en réalité, la réelle question, si on veut en accueillir combien, c'est quoi notre capacité d'accueil?
En effet.
Donc, peu importe on ouvre combien de programmes, même si le PEC il reste là, s'il y a présentement 50 000 travailleurs temporaires que leurs permis viennent à échéance, par exemple, dans 6 mois, même si on a le PEC, si on dit on en accueille 29 000, il y en a quand même 21 000 qui vont devoir rentrer chez eux. C'est ça la réalité.
Ben exactement, c'est ça la réalité. À ce moment-là, c'est plus des travailleurs temporaires. Moi, honnêtement, je suis plus ouvert, malheureusement, à ce que pour des travailleurs temporaires, parce que ça le disait, de toute façon, il y avait le statut temporaire. Peut-être que les portes ne soient pas ouvertes pour des immigrants qui travaillent ici depuis, des personnes immigrantes, devrais-je dire, qui travaillent ici depuis 2 ans, qui sont bien établis, tout ça. Oui. Je m'attends à ce qu'on respecte notre parole et qu'ils demeurent ici. M'a beaucoup allumé Alex Boissonneau quand il a parlé... justement, des coûts, mais surtout des difficultés que ça amenait quand il parlait des banques alimentaires. T'sais, j'ai fait la banque alimentaire de la Boucherie généreuse dans le temps des fêtes. Écoute, on a extensionné le service 1h30, 2h. On est allé chercher plus de bouffe dans des entrepôts qu'il y avait qui n'étaient pas pour les paniers de Noël parce qu'il y avait trop de gens. Et parmi ces gens-là, ben 95-98% des gens étaient des personnes issues de l'immigration.
Ben, c'est triste, puis il y a quand même beaucoup de statistiques qui prouvent ça. Ils viennent ici, ils viennent travailler ici pour avoir une vie meilleure. Ouais. C'est ça leur objectif, mais ça reste que une grosse partie, puis là, je veux pas généraliser, je dis pas la majorité, mais une bonne partie d'entre eux se ramassent dans son prêt à faire des travails, parfois avec des moins bonnes conditions de travail, puis des moins bons salaires également, mais avec le coût de la vie qui augmente, c'est sûr que ça devient rapidement difficile pour ces personnes-là. Puis forcément, bien, pour des services comme ça, qui s'en viennent de moins en moins accessibles. On va le mettre entre guillemets accessible. Ce que je veux dire, c'est que la demande s'en vient tellement forte que pour ces organismes-là, c'est difficile de fournir.
Ben oui, difficile de fournir en bénévole, difficile de fournir en denrées, difficile de fournir aussi en moyens financiers pour justement, tu sais. Quand tu as plus de gens qui viennent d'une banque alimentaire, bien nécessairement, à un moment donné, tu ne peux pas juste agrandir par l'intérieur. Il faut que tu agrandisses tes locaux. Il faut que tu agrandisses ta bâtisse. C'est pas évident là, pour les organismes.
Puis tout ça doit être... Quand on parle de capacité d'accueil, quand cette fameuse capacité d'accueil-là, quand on en parle, bien tout ça doit être pris en considération. Oui, nos hôpitaux, oui, nos hôpitaux, nos écoles, toutes, mais des organismes comme ça qui vont devoir fournir l'aide aux personnes qui en ont besoin, ben faut s'assurer qu'ils soient encore capables de fournir l'aide nécessaire à ceux qui en ont besoin aussi.
Exactement. Je suis rassuré, par contre, par la position du PQ. Ce que j'entendais dans les médias, puis ce que j'avais entendu avec le discours de Bruno Marchand hier, c'est que le PQ n'était pas du tout ouvert à une clause grand-père. Je prends ce terme-là parce que tout le monde sait de quoi je parle quand je parle de clause grand-père.
Oui, exact. C'est un peu comme la taxe carbone.
Exactement. Et là, bien au contraire, Alex Boissonneau nous a dit non, les gens qui sont bien établis ici, que ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent, qui ont leur famille, les enfants sont placés à l'école, tout ça, on ne touche pas à eux, on continue de les accueillir, on les fait citoyens permanents et ils vont continuer de faire part entière du Québec. Donc ça me rassure beaucoup sur la position du PQ. Contrairement à la semaine dernière quand on a eu Pascal Paradis comme en entrevue comme député du PQ, lui m'a pas pantoute rassuré avec sa 7e voix sur le pompier à la porte puis l'abaissement du tablier du pont de Québec. Donc on critique quand faut critiquer, mais je pense également qu'il faut saluer les bonnes intentions et ça honnêtement le PQ m'a rassuré là-dessus.
Oui, puis on est réaliste d'un certain sens. On dit, ces personnes-là, on ne peut pas juste les renvoyer. C'est rendu des Québécois à part entière. Mais on dit, il faut savoir clairement. Par contre, malheureusement, on ne pourra pas tous les accueillir. Il faut être réaliste.
En plein ça. Donc, dossier à suivre, évidemment, dossier qui devrait voir un dénouement le 12 avril prochain. Mais le 12 avril, d'un jour qui vont suivre, après la nomination, l'élection à la chefferie de la CAQ, devrais-je dire, de Bernard Drainville ou de Christine Fréchette. Parce qu'en attendant, pas mal tout... Les partis politiques s'entendent pour dire que ce qui a été fait par la CAQ sous François Legault, avec Jean-François Roberge comme ministre de l'Immigration, ben malheureusement, c'était sortir un bazooka beaucoup trop gros par rapport à ce qu'on a à faire à l'heure actuelle.
Même le monde dans la CAQ se rendu qu'ils sont d'accord.
Exactement. Fait qu'il y a quand même unanimité dans les partis politiques à cet égard-là. On en jase. Merci beaucoup, Alex Boissonneau, député d'Arthabasca, de s'être livré à nos questions. Toujours important d'aller à la source, de poser les questions et d'avoir les réponses. Ça vous permet, les auditeurs, ça nous permet, nous également, les animateurs, de se faire une bonne tête et de savoir vraiment ce que les partis politiques proposent, parce qu'on se le cachera pas, on est en année électorale, Mathias, puis on va avoir un gros choix à faire le 2 octobre prochain.
Oh oui, puis on a une année électorale qui s'annonce beaucoup plus intéressante que prévu. Une victoire facile du PQ présentement avec une Christine Fréchette puis un Charles Milliard qui arrive, ça pourrait être beaucoup plus serré qu'on s'y attendait.
Ah, exactement, excellente chronique de Victor Henriquez qu'on a dans l'émission On en jase également, normalement, qui était ce matin avec nous à Marceau le matin et qui mentionnait à quel point tout vient de changer pour PSPP parce que il était le genou, il représentait le changement face à François Legault, face à un Pablo Rodriguez de 20 ans de politique fédérale. Et là, il se retrouve le vétéran avec un Charles Milliard et sûrement une Christine Fréchette. C'est Bernard Drainville, ça va être autre chose, mais si c'est Christine Fréchette, va se retrouver dans le rôle de vétéran. Pas pareil. Il ne représentera plus le changement. Il va déjà être critiqué, même s'il n'a pas encore gouverné.
Ben c'est ça que j'allais dire, le rôle de vétéran, puis j'ai envie de te dire, même un épuisement politique qu'on commence à voir là, petit à petit, le monde commence, puis même s'il n'a pas été au pouvoir, il y a des personnes qui commencent de plus en plus à être fatiguées, à être tannées de le voir dans les médias.
Oui, puis c'est quoi ça? C'est que le PQ a monté trop vite dans les sondages.
Ouais.
Fait qu'on on s'imagine que c'est le premier ministre depuis 2 ans. Alors qu'il est le chef du troisième parti d'opposition.
Ah, c'est fou.
C'est capoté, Vered. Parlant de choses capotées, mais pas dans le bon sens, ouais. Très, 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 très triste. Rappelle-nous cette tuerie en Colombie-Britannique.
Oui, malheureusement, là, c'est dans la municipalité de Tumbler Ridge, une petite municipalité de 2400 habitants, située en Colombie-Britannique. C'est une fusillade qui a eu lieu hier, justement, vers 13h20, heure locale, à une école secondaire de cette communauté-là. Présentement, on dénombre au total 8 morts sur place, notamment la personne qui a tiré. On dit qu'il y a certaines personnes qui ont malheureusement été victimes, qui sont d'âge mineur également. C'est la plus grande fusillade, la plus meurtrière dans l'histoire du pays, malheureusement. Là, écoutez, on a identifié la personne responsable de cette tragédie-là qui est décédée. C'est une femme ce serait une femme aux cheveux bruns, là, selon les descriptifs qu'on a actuellement. Rien n'est confirmé. Puis le motif de cette tuerie est toujours inconnu.
Pour ce matin, on avait à Marceau le matin Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, qui était en entrevue avec nous. Il nous explique en premier lieu pourquoi, justement, parce que t'es-tu comme moi, Mathias, moi j'ai hâte à une conférence de presse, oui, qu'on en sache plus, mais il nous explique pourquoi, présentement, ça prend un certain temps avant cette fameuse conférence de presse.
Il manque des éléments parce que il y a la scène de l'école, mais il y a une scène avant dans une maison. Est-ce que c'est une personne qui s'est désorganisée chez elle? Est-ce que la personne, c'est un enseignant? Est-ce que c'est un étudiant? Il nous manque beaucoup d'éléments. Puis, dans ces genres de communautés-là, très, très vite, le jeu du téléphone ou le jeu des médias sociaux va peut-être devancer l'information policière. C'est là qu'il faut faire attention pour avoir la bonne information. Fait que d'où, je pense, le moment... En ce moment, on dirait qu'ils retiennent beaucoup d'informations. Ils ne nous donnent pas beaucoup ce qui s'est passé. Là. C'est calme, là, mais on ne sait pas qui a fait quoi, dans quelles circonstances. Ouais. Je pense que tout ça est à démêler pour eux autres aussi.
Vraiment pas évident pour eux parce que 2 scènes de crime, c'est une petite communauté, donc c'est pas facile d'être capable d'aller chercher tous les éléments. Et veux pas, la scène de crime est souillée parce qu'on a intervenu rapidement pour empêcher d'autres morts.
Puis c'est tellement un dossier sensible, on va se dire, là, c'est un drame qu'on vit actuellement. Le premier ministre Mark Carney qui a pris la parole tout à l'heure, qui disait que le Canada est en deuil, puis je pense que c'est le cas de le dire. Fait que du côté des services de police sur place également, c'est certain qu'on veut prendre le temps de rassembler tous les éléments puis d'avoir la version la plus fidèle possible qu'on pourrait arriver avec cet événement-là.
Exactement. Roger Ferland nous explique aussi cependant que normalement, cet après-midi, donc en début de soirée, heure de Québec, devrait avoir une conférence de presse parce qu'il faut quand même sécuriser les gens de cette communauté de Tumbler Ridge.
Je pense que oui, puis je pense que ça va être nécessaire parce que là, on a entendu les politiciens. C'est correct, là, c'est parfait d'appuyer, là, mais c'est pas eux qu'il faut qu'on entende. Mais vois-tu, dans une communauté comme ça, c'est tout petit, là, ce village-là. Tu sais, 2500 personnes, tout le monde doit connaître les gens à la polyvalente et les gens doivent se poser la question également. Attends un peu, tu savais-tu de quoi? T'as-tu parlé? T'as-tu fait telle affaire? C'est quoi la cause? Fait que je pense que tout le monde a un sentiment de culpabilité, pour ne pas dire de responsabilité là-dedans. Je pense qu'ils ont besoin de donner en ce moment-ci une rétroaction à la population pour qu'on ait leur juste, puis que les gens arrêtent de spéculer en ce moment sur ce qu'il y en est.
Exactement, parce que là, évidemment, dans une petite communauté comme ça, il y a des gens qui doivent savoir malheureusement qui a fait l'acte, même si nous, on ne le sait pas.
Puis des fois, c'est des fausses rumeurs aussi qui voient le jour. Donc, effectivement, il faut clarifier la situation le mieux possible et le plus rapidement possible.
Exactement, parce que sinon, ces gens-là, il y en a qui peuvent se culpabiliser, dire hey, « voyons donc, comment ça, j'avais pas vu ça venir? »
Une chose est sûre, nos pensées sont avec la famille des proches actuellement.
Ah, clairement, avec toute la communauté là-bas en Colombie-Britannique, on en saura plus au cours de l'après-midi. Alors, restez branchés à l'antenne de Boulevard 101. C'est sûr que dans le retour de Gravel, Véronique Bergeron va vous informer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité, Mathias?
Grosse opération policière du côté du SPVQ, puis plusieurs opérations policières. Là, on vise vraiment le crime organisé. C'est 6 individus qui ont été arrêtés en lien avec du trafic de stupéfiants dans le secteur de Beauport. L'opération qui a été menée vers 6 heures, là, 6 personnes au total. Il y a 2 individus qui ont également des charges pour possession d'armes dans un dessin dangereux. Cette frappe, justement, qui est le fruit d'une enquête lancée en novembre dernier contre le crime organisé directement. Aujourd'hui également, il y a eu certaines saisies policières dans certaines résidences des Hells Angels, notamment de leur ancien leader Salvatore Casetta. Donc, du côté du SPVQ, on continue notre gros travail qu'on fait maintenant depuis plusieurs mois pour stopper le crime organisé qui est en montée à Québec.
Félicitations SPVQ, je le dirai jamais assez, depuis la fin 2024, ils ont pris, printemps 2024, quand il y avait une grosse opération conjointe avec la SQ, la police du Saguenay, la police de Montréal, la police de Lévis, ils ont pris le taureau par les cornes et franchement, il y a des arrestations à chaque semaine, il y a des gros piliers qui sont tombés. Bravo, c'est un super travail de notre police, on peut être très fier.
Le scandale Saclic revient dans l'actualité, puis c'est parce que Karl Malenfant, l'ex-vice-président aux technologies de l'information de la SAAC, a fait une conférence de presse aujourd'hui où qui
ouais,
a...
Attends, on va
merci de votre indulgence à mon égard. Je ne suis qu'un être humain bénévole qui...
Ah, cet être humain bénévole à 250 000 $ par année?
Seulement.
C'est de lui que tu parles?
Oui, cette pauvre victime
bénévole.
De ce fiasco-là... Écoutez, c'était un peu ça le but de son point de presse, on va être honnête, c'était de se positionner en disant ce qu'on va voir dans le rapport de la commission Galant qui va être déposé lundi, c'est pas nécessairement toute la bonne version des faits. Il y a certaines décisions que j'ai prises parce que j'avais pas le choix. En tout cas, on a cherché à se justifier durant 90 minutes.
Exactement.
Je pensais que mon point de presse du rapport indépendant de respect citoyen avait été long il y a deux semaines. Finalement, ça devait pas être typé par rapport à cette
Oui, puis vraiment comme un niveau de communication potelard, Karl Malenfant fait pire que respect citoyen quand il essaye de se parler les trois en même temps derrière un micro devant une caméra. Fallait quand même le faire.
Puis s'il y en a certains qui se demandent dessus parce qu'il sait d'avance qu'il va être écorché pas mal dans la commission Galant, la réponse est oui. On a appris que c'est 48 allégations de mauvaise conduite qui va se retrouver dans le rapport de la commission Galant lundi prochain. C'est beaucoup.
C'est dur se défendre de 48
blancs. C'est ça. Puis c'est un peu ça que je disais tantôt avec cette conférence de presse-là, honnêtement. Il pensait convaincre.
Non, c'est ça.
Sérieux.
Ben, 418-971-1021, vous avez juste besoin d'écrire un nom. Qui vous croyez le plus? Le commissaire Galant? Donc, écrivez Galant ou Karl Malenfant. Écrivez Karl ou Malenfant parce que de toute façon, il n'y a personne qui va l'écrire. Mais écrivez-le quand même. 418-971-1021, je veux avoir votre opinion.
Je termine avec le PEC, le programme de l'expérience québécoise. On a vu Christine Fréchette hier qui a dit qu'elle voulait relancer le projet pour une durée de 2 ans. De son côté, on expliquait que c'était le seul moyen d'offrir une clause grand-père aux personnes qui sont déjà installées. Jean-François Roberge a pris la parole aujourd'hui à savoir est-ce qu'il va remettre le PEC avant l'élection du prochain chef de la CAQ. Sa réponse a été non. Par contre, ce dernier affirme que divers scénarios de transition seront préparés selon qui va être le prochain premier ministre du Québec.
Dans un instant, on parle avec Nicolas Lachance, justement, de cette conférence de presse interminable de Karl Malenfant et des réactions à l'Assemblée nationale ce matin pour plein de dossiers. Nicolas, qui est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, à l'Assemblée nationale. C'est ce qui suit. Steve qui écrit Karl Galant. Hey, bonne Steve, j'adore. C'est ce qui va suivre à l'émission Nageurs sur Boulevard 101. Merci d'être à l'écoute, guys. Émission d'Angers sur Boulevard 101, ton émission du midi d'actualité. On fait le tour de toutes les nouvelles que tu dois savoir. On analyse également le comportement, les décisions de nos nombreux politiciens et on te parle de sujets qui en valent la peine. Comme de Carl Malenfant et de sa clique 1,1 milliard. Mais c'est pas de la faute de Carl, c'est un homme
pauvre
bénévole.
Pauvre-ti.
On va en parler dans quelques instants avec Nicolas Lachance parce que Nicolas va nous appeler après avoir entendu Carl Malenfant sur les ondes de LCN. Il va nous faire un résumé aussi de sa conférence de presse interminable de 1h30 ce matin. Pendant ce temps-là, Mathias, la Slovaquie vient de marquer un quatrième but. C'est 4-1 pour les Slovaques contre la Finlande. Le tournoi olympique qui va commencer avec une surprise.
Hey, une première surprise, puis c'est tout un match de hockey qu'on a eu pour vrai. La Finlande, qui a une meilleure équipe que la Slovaquie, il faut dire. Mais la Slovaquie, qui a été portée par leur joueur étoile et le joueur des Canadiens, Juraj Slafkovský. 2 buts, 1 passe dans le match. Bon, il reste encore 2 minutes environ, là, mais c'est 4-1. On vient de scorer dans un but désert. C'est pas mal fini pour la Finlande, donc... Moi, j'aime ça, les surprises comme ça, tant que c'est pas le Canada qui perd. Là.
Exactement.
Des nations qui peuvent se démarquer, mais qui ont peut-être un peu moins de profondeur, réussissent à battre d'autres nations qui ont une équipe bien meilleure grâce à des performances. Là, on parle d'une grosse performance de Juraj Slafkovský, mais des grosses performances de joueurs qui réussissent à se démarquer puis à amener leur jeu à un autre niveau. Je trouve toujours ça beau, là, cette diversité-là qu'on a au hockey. Puis c'est beau en maudit aussi de revoir les joueurs de la Ligue nationale porter le chandail de leur pays pour jouer aux Olympiques. Ça fait du bien à voir.
Oui, et pour les jeunes qui jouent au hockey 13 mois par année, là, vous comprenez mon expression, allez voir le but dans un filet désert de la Slovaquie. Juraj Slafkovský fait une passe avec son patin tel un joueur de soccer. Fait que pratiquez, les jeunes, pratiquez vos autres compétences qui sont là, les compétences très simples là, de botter, lancer, sauter.
Ça faire
peut
d'autres
servir
sports.
Au hockey, faire d'autres sports. Élargissez les horizons, vous n'allez être qu'un meilleur sportif. Parlant de hockey, Mathias, la maman du jeune joueur de Saint-Marc-des-Carrières là, qui s'est fait assommer avant la finale à Rimouski entre 2 équipes de catégorie M18 des 2 catégories scolaires a fait une première sortie dans les médias. Daisy Fournier Vachon, elle dit que les images lui restent dans la tête, elle a de la misère à dormir, que c'est un geste inacceptable et gratuit. Elle n'en revient pas que ça a été juste un 10 minutes de punition et que ça n'a pas eu l'air à être grave d'avoir bousculer d'autres joueurs. On le rappelle, le jeune a subi une commotion cérébrale, n'a pas pu jouer sa finale et il est au repos complet. On ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre l'activité physique. Hockey Québec est en révision de la séquence des événements et des sanctions plus sévères pour être décernées à l'adolescent de Rimouski. La mère attend de voir la décision d'Hockey Québec avant de décider si elle portera plainte ou non. Hockey Québec n'a pas le choix, doit sévir très sévèrement envers justement ce jeune joueur-là parce que c'est un geste totalement gratuit. Et si les officiels, si les entraîneurs, si les parents de joueurs-là n'ont pas cru bon d'intervenir, bien, il faut qu'Hockey Québec le fasse.
Jeff, la vidéo a fait le tour d'Internet, puis on le sait tout. On a tout vu. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, là, c'est partout sur Internet présentement. Ça fait le tour de Facebook, ça fait le tour des journaux. C'est un acte qui n'a pas d'allure là, de la part du joueur, on va dire. Puis en tant que parent, là, ton cœur t'arrête à ce moment-là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, on était allé voir mon frère jouer au hockey. Puis on parle d'une mise en échec en situation de partie. Mais une mise en échec qui est vicieuse, qui avait été faite par derrière mon frère, ça se relevait pas. Là. Moi-même, je me souviens de ce sentiment-là que je ressentais quand j'étais jeune. Mes parents à côté qui paniquaient. En tant que parent, quand tu vois un jeune, puis 418-971-1021, selon moi, il y a certains parents qui nous écoutent, que c'est déjà arrivé, un de leurs jeunes qui reçoit un coup dangereux, que leur jeune reste sur la patinoire, ton cœur s'arrête.
Ah, c'est clairement, moi je coach mes gars, puis c'est déjà arrivé qu'Eliott s'est fait planter dans le dos pas à peu près, puis j'ai dit au coach adjoint, va le voir parce que moi, je risque de mal agir.
Oui.
Non, mais tu sais, je serais sauvé de sa glace puis je me serais payé un 2 minutes verbal contre un jeune de 16 ans puis je voulais pas faire ça.
Ben non,
je voulais rester calme derrière le banc. Mais c'est sûr que ça vient
émotionnellement. Faut pas tolérer des gestes comme ça. Là.
Non, exactement. Parlant d'émotion, vous allez sûrement en vivre vendredi le 31 juillet prochain au festival. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Eh bien oui, le groupe mythique Papa Roach que vous avez vu en prestation acoustique ici au printemps 2024, que vous avez sûrement vu à l'Agora de Québec l'an passé, le meilleur show que j'ai vu de l'été, eh bien, va être au Festivan le 31 juillet prochain. C'est un vendredi. Réservez votre soirée. Achetez immédiatement le laissez-passer 5 jours. Il est à 70,99. C'est un rabais de 20$.
Ouais, pis ça.
Allez-y, festival.com.
Pis ça va partir vite, hein?
Ok, oui, ça va partir vite. Ça va partir vite, Mathias, parce que il y a Papa Roach. Il y a également l'excellent groupe jeudi le 30. Sale Barbe, l'excellent groupe québécois
oui,
qu'on a vu.
C'est un phénomène québécois au cours des dernières années. Là. C'est probablement un des groupes qui, en spectacle, est le plus populaire au Québec actuellement, Sale Barbe. Donc, une grosse prise aussi du côté du festival.
Exactement, on les a vus au festival d'été. Et il y aura ce groupe-là, imaginez-vous donc, le dimanche 2 août.
Oh. La toune n'est pas partie.
Ben oui. Doublé pleinement Québec, pleinement Chaudière-Appalaches. Papa Roach, Offspring.
Hey, ça va être fou raide.
Aïe, 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 le festival frappe fort. Elle fait que de la pression.
Ah ben oui, hey, non, mais c'est fou raide. Les fans de punk, on est gâtés en maudit. Papa Roach, The Offspring. Puis en plus de ça, du côté du festival, on dit, hey, on amène toujours des artistes québécois.
C'est ça.
On en amène un des plus gros du moment, Sale Barbe.
Oui.
Toute une programmation pour l'instant.
Et c'est sans compter qu'hier, on a annoncé que dans le cadre d'Envol et Macadam, le vendredi du mois de septembre, là, je me souviens plus la date, j'irai la vérifier, c'est nul autre que Bad Religion qui va être là à l'Agora de Québec. Donc, amateurs de musique, à Québec, on va être gâtés pour la période estivale et le début de l'automne. Je le sais, vous êtes en manque de show. Il y en manque présentement au Centre Vidéotron. On en veut du rock, on en veut du punk. En passant, on en joue la fin de semaine ici à Boulevard, à compter de 7h avec le Rock and Chill Audrey Pinchot. De 10 à 15, le Boulevard du Rock avec Dan Caron le samedi et Colosse le dimanche. Et le Racamat à ne pas manquer les samedis et dimanches à compter de 15h. Je suis sur le cul, Matt, avec cette programmation-là.
Ouais, ben, je m'achète pas. L'an passé, je me suis pas acheté des billets du festival parce que je pouvais pas y aller pour X raisons. Cette année, je vais m'arranger pour pouvoir y aller. Là. Je vais te dire, ben, honnêtement,
ah,
là,
oui,
la
hein?
programmation pour l'instant, elle me tente en maudit.
Vraiment. 418-971-1001 pour interagir avec nous sur cette belle programmation du festival de Québec. Également, je vous rappelle, vous pouvez nous écouter sur l'application Boulevard 102.1. C'est disponible App Store, Google Play Store. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. Mathias, un petit tour d'actualité avant qu'on aille rejoindre Alicia Despins pour parler du maire Marchand qui... Est-ce que je vais m'excuser? Non. Est-ce que ça va coûter cher aux citoyens? Oui, on parle évidemment du cas du salut nazi, qu'on n'était pas un, de Vicky Lépine.
C'est un dossier qui est sorti dans Radio-Canada ce matin, là, de la plume d'Olivier Lemieux. Le remplacement des navires de la traverse Québec-Lévis qui fait présentement du surplace. Puis, de ce qu'on apprend, la flotte doit arriver à en fin de vie utile d'ici 5 ans. Du côté de la porte-parole, justement, de la STQ, qui est la Société des traversiers du Québec, on dit que pour l'instant, là, les navires se portent bien, sont en bon état, fait qu'ils pourraient aller après 2031. Par contre, si on veut remplacer la flotte, on nous dit que c'est environ 6 ans de délai d'attente. Je vous rappelle, la durée de vie utile présentement de ces navires-là, c'est 5 ans. Fait qu'on commencerait maintenant, on n'arriverait pas attend pour la durée de vie de fin utile. Fait qu'on va espérer que les navires continuent.
Fait que dans le fond, on a géré ça comme le pont de l'île d'Orléans.
Oui,
c'est ça.
C'est
en train de
ben, comme tous nos dossiers, j'ai
comme
presque envie
dossiers,
de te
ouais, parce que
le pont Champlain
souvient,
aussi.
Là. Ah, exact. Oui, le pont Champlain est un excellent exemple. Là. A fallu mettre des pieux à coup de avec $1 milliard pour que le tenir en place. Le temps qu'on en construise un à 4-5 milliards de dollars. Donc, c'est de toute beauté. Alors, on gère vraiment nos infrastructures. Tu croches, d'ailleurs, vous rappelez là, qu'il y a eu un rapport sorti la semaine dernière par la Société des ingénieurs qui disaient que nos infrastructures étaient en retard d'entretien, plus de 50% de nos infrastructures. Donc, c'est une autre preuve.
Oui, puis mon chef d'éragie du Parti libéral est sorti pour dire que c'est un peu de la faute du troisième lien. Là. C'est une des conséquences de l'obsession de la coalition Avenir Québec. Bon, là, j'ai l'impression qu'on essaye de faire porter le chapeau d'argent maudit
non,
là,
c'est ça, là,
au projet de troisième lien.
Je comprends qu'il y a des anti-troisième lien, puis le PQ est là-dedans. Pascal Paradis nous l'expliquait que sa septième voie sur le pont Pierre-Laporte. Mais là, à un moment donné, il y a... La gestion des traversiers, ça appartient à la Société des traversiers.
C'est ça.
La gestion des infrastructures, comme les ponts, ça appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Faut pas mélanger les dossiers non plus.
Un article qui a attiré mon attention dans Le Soleil, ça se passe pas nécessairement à Québec, mais c'est un hôpital de l'Apocatière qui sera... En fait, qui ne pourra plus recevoir d'accouchement durant 4 jours. Donc, du 12 au 16 février, Cet hôpital-là, situé à l'Apocatière, si vous avez un accouchement, par exemple, dans la région, vous allez devoir aller à l'hôpital de Rivière-du-Loup, qui est situé 70 km plus loin. La raison de ça, on dit que c'est un enjeu de personnel médical pour ces journées-là. Mais je pense que ça en dit beaucoup présentement, justement, sur la situation dans notre système de santé par rapport au personnel qu'on a de disponible.
Exactement. Encore des problématiques à avoir du personnel en région. Et ça, je le rappelle, hein, on a mis dehors le personnel infirmier des agences de placement. Puis on se retrouve là. Mais en disant non, inquiétez-vous pas, il y en a plein qui reviennent au bercail. On a amélioré les conditions. Non. Il y a plein d'infirmières qui ne veulent plus travailler au public parce qu'ils sont obligés de faire du temps supplémentaire obligatoire. Ils sont obligés de travailler la fin de semaine, le soir, la nuit. Puis ils ont des jeunes familles. Mais on s'est coupé de ceci. Et là, on va couper un service direct à la population. C'est insensé ce qui se passe. Y est-tu temps qu'on arrive au 2 octobre pour changer de gouvernement?
Puis la population du Kamouraska, je veux dire, c'est nécessaire, là, ce service en accouchement-là.
Oui, puis là, Kamouraska, on parle pas du Grand Nord québécois.
Non, c'est ça, on parle justement d'Apocatière, Rivière-du-Loup et tout, parce que là, c'est 70 km plus loin. C'est long, maudit, 70 km. Ben, t'es pas rendu en un claquement de doigts.
Non, ben pour l'avoir fait, l'aller-retour Rivière-du-Loup, l'Apocatière, parce que je m'étais installé à un hôtel à Rivière-du-Loup pour le tournoi à l'Apocatière, c'est au moins un bon 40 minutes. Là.
Ben, c'est ça.
Donc,
fait que t'imagines-tu, t'as un accouchement, tu dois faire 40 minutes de route de plus.
Sais-tu ce qu'il faudrait qu'arrive? Faudrait qu'un gars accouche sa femme dans son char pour démontrer à quel point c'est épouvantable comme
On vous le suggère pas. Là.
Non, mais t'es, puis là,
j'ai pas le choix.
Faut que le bébé
faire.
Soit en santé, que tout le kit, là, je veux pas une tragédie. Là.
Qu'il soit
mais
obligé.
Juste ça. Pour que ça démontre à quel point ce qui se passe dans notre système de santé, c'est insensé. Je le rappelle, on est les gens qui payent le plus de taxes et d'impôts au Canada. Puis là, c'est rendu que des hôpitaux dans des régions très habitées, comme Kamouraska, ben ils sont pas en fonction.
4 jours de temps. On parle, c'est ça à faire, on parle pas d'un léger bris de service de 1-2 heures.
Non.
4 jours de temps, durant 4 jours.
Je sais pas, moi, le système électrique fuck, là, puis là, je suis obligé de fermer pendant 24 heures. Là. On va comprendre, là, c'est un bris qui arrive. Là. Mais non, c'est du manque de personnel, on est censé être capable de le planifier, et on ne le planifie pas du tout. Julie qui mentionne, ma deuxième, je l'ai eu en 12 minutes. Ouais, ben c'est ça. Julie, une chance, t'habitais pas à l'Apocatière, t'aurais accouché dans le char. Viens.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais un cas comme Julie, où on accouche dans le char parce qu'on n'a pas le choix, le bébé est en santé, c'est mais ça. Après ça,
ben non.
On va à l'hôpital pour recevoir, c'est comme...
Ah, non,
qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, en tout cas? C'est...
Ah, dors la CAQ, dors, même si c'est Christine Fréchette qui est là, dors. Vous allez me dire, ouais, les autres seront pas mieux, Jeff, c'est pas grave, regarde, une solution de remplacement, on fera avec, on n'a pas le choix. Petite dernière?
Oui, ben tu voulais qu'on parle de
l'accessibilité.
Mon Dieu, c'était pas facile.
Aux maisons, parce que t'es un jeune, et je lisais sur la première page du Journal de Québec que l'accessibilité à la propriété, ben ça a juste pas de sens présentement, ce qui se passe pour les jeunes.
Oui, puis de plus en plus, on se demande si on va être en mesure de s'acheter une maison. On parle de... C'est un couple un peu qui ont fait... qui ont témoigné dans le Journal de Québec qui tente présentement de s'acheter une maison en Estrie. Puis là, on dit... C'est ça qui explique. On a trouvé des maisons à 385 000. On va la rénover. Mais ça va coûter combien? Bon, c'est difficile.
385 000 à Cowansville.
C'est ça, c'est pas dans le centre-ville de Montréal ou à Québec.
Non, c'est à Cowansville. Fait que là, il faut que je paye du déplacement à côté. C'est un beau récit, là, justement, dans le Journal de Québec, d'un jeune couple, Léa Stewart, notamment, 23 ans, qui est gestionnaire de projet pour une entreprise familiale qui est obligée de se dénaturer de son milieu de vie parce qu'elle et son chum ont des bonnes jobs, c'est des bons citoyens, mais ils ne sont pas capables d'acheter une maison en Outaouais. Je le rappelle, à Montréal, c'est 731 000 une maison unifamiliale en moyenne.
T'en parles, Jeff, puis on a des chiffres d'augmentation, justement, là, pour vous donner une idée, parce qu'on parle d'augmentation, là, je vais vous qualifier ça en chiffres. Dans la capitale nationale, une maison unifamiliale, le prix médian, donc pas le prix moyen, là, si on prend toutes les maisons puis on coupe au milieu, c'est ce prix-là qu'on parle. 240 000 $ en 2015. Selon vous, c'est rendu combien en 2025? 442 500. On a augmenté de 200 000 $. On a presque doublé le prix en 10 ans.
Aucun sens.
C'est fou, raide. Puis à travers ça, tu rajoutes toute l'inflation alimentaire qu'il y a eu, toute l'inflation sur toutes les autres.
Pour la province, c'est 230 000 à 490 000. C'est plus du double en 10 ans. On peut bien avoir de la misère à payer nos fins de mois. C'est vraiment inacceptable ce qui arrive. Il va falloir régulariser le marché avec de la construction de logements abordables. On n'aura pas le choix.
Mais, je veux dire, puis en tant que jeune adulte, on regarde ça puis on se dit, la question se pose vraiment, comment on va réussir à se loger? Comment on va réussir à payer une maison puis réussir à avoir des moyens de le faire?
Vraiment, les jeunes, je suis avec vous. Je pense à vous parce que c'est pas facile. J'en ai acheté une maison l'année passée, puis je vais vous dire une affaire, c'est pas facile. D'en trouver une de un au bon prix, puis après ça, être celui qui fait la bonne offre, c'est vraiment difficile. Je suis avec vous. Mesdames et messieurs, dans un instant, Alicia Despentes est avec nous. On va parler du maire Marchand qui va dépenser vos centaines de mille piastres. Là, il va dépenser ça n'importe comment pour se défendre du fait qu'il a vu un salut nazi que Vicky Lépine avait fait en février dernier au conseil de ville. Qu'il n'en est pas un. Fait qu'au lieu de s'excuser, il va dépenser votre argent, gang. On en parle après la pause avec la chroniqueuse politique Alicia Despentes. Émission d'En jase qui roule sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Dans le prochain segment, Nicolas Lachance va nous parler un petit 3-4 minutes de ce qui s'est passé avec Karl Malenfant, sa conférence de presse et son entrevue à LCN. Et par la suite, Alicia Despentes sera avec nous pour parler de cette fameuse saga du salut nazi qui ne finit plus par finir et qui va nous coûter énormément d'argent. Et le maire Marchand ne s'en cache même pas. Mais avant ça, la météo, je vous le rappelle, c'est moins 6 faible neige pour aujourd'hui, moins 3 ciel dégagé demain, et moins 6 ensoleillé pour vendredi. Donc, on a une très belle semaine d'hiver à l'heure actuelle. Soyez prudents sur les routes. Est-ce qu'il y a quelque chose à la circulation, Mathias?
Pour l'instant, tout se passe bien, mais soyez prudents, il y a neigé aujourd'hui.
Il est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Il est sur le beat, comme on dirait. Il a suivi cette saga, sa clique en direct de la commission Galant. Et là, aujourd'hui, il a écouté Karl Malenfant se plaindre pendant 90 minutes. Je parle de Nicolas Lachance, qui est présent avec nous à l'émission d'En jase. Nicolas, merci pour ta présence.
Salut Jean-François.
Nicolas, qu'est-ce qu'on retient? Moi, là, j'ai écouté à peu près 20 minutes, là, je dois te le dire, de cette conférence de presse-là où j'ai entendu Karl Malenfant s'appeler un homme bénévole, pleurer parce qu'il y a une femme qui l'avait reconnu dans la salle d'attente de son médecin, puis dire que Guylaine Notler, la vérificatrice générale, était pas bonne parce qu'elle avait pas pris sa version des faits. Mais à part de ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice de relations publiques?
On apprend qu'il y aura 48, ben, que M. Malenfant a reçu 48 avis. Au préavis de mauvaise conduite. Donc, il les a rendus publics aux journalistes qui étaient sur place. On apprend finalement ce qui lui sera reproché dans le rapport Galant. Ça ne veut pas dire que tout y sera. Hein. Donc, un préavis, si on informe le témoin que son nom pourrait se retrouver dans le rapport final, puis ben qu'est-ce qui pourrait lui reprocher. Donc, il est venu aujourd'hui un peu essayer de contredire tout ce qui va être dans le rapport, si ça apparaît, donc et ce qu'on lui reprocherait. Et aussi appuyé beaucoup sur le fait qu'il n'était pas seul. Donc, il est un peu resté l'image marquante de cette commission, le témoin principal, celui qu'on a nommé l'architecte du projet SACLIC. Ça reste qu'encore aujourd'hui, il est venu répéter que, bon, c'est pas toute la preuve qui a été mise de l'avant. C'est pas vrai qu'il a constamment présenté des indicateurs qui étaient au vert, par exemple, pour les budgets, les délais, les retards. Bon, que finalement, il a déposé de la preuve dans laquelle on peut démontrer que au conseil d'administration, à la haute direction de la SAQ. Ben, on présentait les indicateurs rouge, jaune, orange, toutes les couleurs finalement. Puis qu'il n'était pas seul derrière ça. Et il a mis également beaucoup l'accent sur ceux dont on ne parle pas beaucoup et qui étaient les réels responsables. Selon lui, ben, il n'a pas été de son opinion directe. Là, il a tenté de garder ça sur les faits, comme il le répétait à de nombreuses reprises, sur le consortium. Donc, et l'entreprise IBM, donc LGS, qui avait obtenu le contrat, disant que ben ils n'ont pas témoigné, c'est eux qui s'en sont mis plein les poches, c'est eux autres qui ont été les plus bas soumissionnaires et qui ont répondu à l'appel d'offres, puis qu'après ça ont voulu renégocier pour des extras. C'est pas Carl Malenfant qui a décidé du prix là, c'est cette grande multinationale.
Mais en même temps, c'est quoi le but de tout ça? Parce que là on parle de la parole de l'homme qui se fait critiquer dans la commission versus la parole d'une commission complètement indépendante. Il pense convaincre qui avec ça?
Je pense qu'il fait ça pour lui-même. C'est ce qu'il a dit également sur les ondes d'LCN tout à l'heure avec mon collègue Philippe-Vincent Poisy pour tenter de rectifier sa version de l'histoire, la version de l'histoire de plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce projet-là à la SAQ. Soutient que lors de la commission d'enquête publique, donc durant les audiences, tout était dirigé par les procureurs pour qu'il y ait un certain narratif qui soit mis de l'avant et non la version complète dans son ensemble d'un projet qui a duré plus de 10 ans. Et dont lui, ben oui, il était vice-président, mais il y avait une quarantaine de cadres avec lui aussi dans ce projet-là, et qu'il y avait des vice-présidents, des autres parties, dont financières, qui avait un PDG, une PDG à chaque fois, un conseil d'administration qui était au courant de tout ce qui se passait. Donc, je pense qu'il a essayé pour une dernière fois. En fait, il prend la balle avant. Donc, il répond avant au rapport en venant présenter ce qui lui était privé. Donc, c'est pas d'ordre public, les préavis qu'il a reçus. Ça voulait même pas dire que ces 48 avis de blanc vont se retrouver à l'intérieur du rapport. Là. Il prend même peut-être une chance en dévoilant peut-être plus
que
ce qui se retrouvera dans le rapport. Donc, lui, il a voulu prendre les devants. On sait maintenant exactement ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'avoir menti sur des dépassements de coûts à des ministres. On lui reproche également d'avoir caché des choses là au Conseil du Trésor.
Nicolas, en terminant, rapidement, est-ce que tu as convaincu quelqu'un?
Je pense que... À vous de voir. Depuis le début, et M. Malenfant a quand même répété une phrase que j'avais moi-même demandée à la vérificatrice générale de l'époque, Guylaine Tremblay. Leclerc, excusez-moi, Guylaine.
Il n'y a pas de problème.
Guylaine Leclerc, c'est comment est-ce possible que pour la plus grosse transformation numérique de l'histoire du gouvernement du Québec, un seul homme, là, surtout dans la fonction publique québécoise, ait réellement pu cacher tout ça à tout le monde et monter ça seul. Là. Donc, il est revenu avec ça. Il faut quand même souligner que il n'était pas seul dans ce grand fiasco. Lui, il constate que c'est pas un fiasco, mais bon. Et il remet en question également les dépassements de coûts encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va se retenir? Clairement que c'est quelqu'un d'entêté qui souhaite blanchir sa réputation.
Nicolas Lachance, correspondant parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci beaucoup pour les précisions sur cette conférence de presse de Carl Malenfant, cette entrevue à LCN. Ça te dérange pas? Je te ferai signe mardi prochain après le rapport Galant pour qu'on puisse parler.
Tenons-nous au courant.
Excellent! Salut Nicolas, salut, merci beaucoup. Nicolas Lachance, suivez-le dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Il est excellent, il est sur le beat à l'Assemblée nationale.
À Boulevard.
Ah, tenter de convaincre les gens avec l'impossible. C'est un peu ce que Carl Malenfant fait à l'heure actuelle. Et parlant de tenter de convaincre les gens qu'on n'est pas coupable, ça va coûter cher. C'est un peu ce que le maire Bruno Marchand tente de faire dans le dossier Vicky Lépine avec sa déclaration d'hier. Et pour en parler avec nous, on a notre chroniqueuse politique municipale, ex-conseillère municipale pour Vanny Dubergé, Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien.
Alicia, est-ce que c'est maladroit du maire Marchand de dire « Hey, la poursuite, ça va coûter cher aux contribuables pour essayer de mettre de la pression sur Vicky Lépine? »
Je suis pas prête à dire ça, là. Regarde, j'étais pas là, fait que je sais pas dans quel contexte, mais je me doute avec une réponse comme celle-là que c'était en réponse à une question d'un journaliste qui, de manière tout à fait pertinente, demande ben, est-ce que ça va coûter de l'argent? Bon, la façon dont il dit, on le sent que ça fait pas son affaire, on le sent qu'il veut un peu là, gagner l'opinion publique de son côté là, en mettant cet élément-là finalement dans la sphère publique puis détourner un petit peu l'attention finalement de la question qui va être posée pour ce possible procès-là. Donc, oui et non, je pense que c'est normal là, qu'il réponde quelque chose comme ça.
Est-ce que le maire Marchand, ça aurait été plus simple pour lui de s'excuser au lendemain ou 48 heures après, de dire « Hey, je m'excuse, là, j'ai vu un salut nazi, je crois à la citoyenne, elle me dit que c'était pas ça, je m'en excuse, on passe à une autre histoire » plutôt qu'être encore empiétré dans cette histoire-là un an plus tard?
Ouais, je pense que ça aurait été la chose la plus sage à faire. Puis, tu sais, avec un petit peu... voir un petit peu plus loin aussi là, que l'émotion forte du moment. Cette femme-là, clairement, ça a eu un grand impact. Puis plus le temps passe, plus elle est capable de démontrer cet impact-là. Donc, est-ce que ça aurait été plus clair de s'excuser? Absolument. Ça fait pas mal non plus là, de s'excuser. Là. Donc, bon, je pense qu'on est tous capables de voir ces impacts-là sur cette femme-là. Pour le maire, ça y aurait surtout permis d'éviter le débat, d'éviter toutes ces questions-là sur la légitimité que ce soit payé par les fonds publics, sa défense, mais surtout la distraction, là, parce que Bruno Marchand, quand il répond à ces questions-là, quand il s'occupe de ça, quand il prépare ses dossiers en vue d'une possible poursuite, parce que là, on n'est pas rendu là encore, mais c'est de l'énergie, c'est du temps qu'il ne met pas sur les dossiers dont il est supposé s'occuper en ce moment. Ça, pour moi, c'est plus problématique, là. Donc, c'est beaucoup d'énergie se préparer à tout ça. Ça aurait pu être évité avec tout simplement des excuses sincères. Comme je le disais, ça fait pas mal. Donc, je comprends pas encore là, pourquoi il a pas choisi cette voie-là dès le début.
Est-ce que on pourrait dire que c'est une preuve de plus que parfois Bruno Marchand a de la difficulté à gérer ses émotions ou encore à avouer ses torts? Parce que c'est un commentaire qui revient souvent chez les auditeurs. Beaucoup de personnes ont cette impression-là présentement.
Ouais, c'est des fois c'est ça là. Il y a des actions, des choix qu'il fait comme ça qui démontrent qu'il y a peut-être de la difficulté là, à rester calme dans certaines situations ou à laisser finalement les sages décisions prendre le dessus puis laisser ses émotions de côté. Donc effectivement, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on voit ponctuellement. On commence à comprendre un petit peu plus comment cette personne-là réfléchit, comment elle agit, comment elle décide. Puis ça, ben, c'est un exemple très clair. Et malheureusement, ben, y a des coûts pour tout le monde. Ça peut être très long comme démarche. On risque d'être pogné là-dedans pendant un petit bout. Puis je pense pas qu'on avait besoin de ça. Donc, je reviens à ça, là. Est-ce que ça aurait été plus simple de s'excuser? Clairement. Là.
Clairement, je suis tellement d'accord avec toi. Là, ça me fait penser, Alicia, et c'est une question que je veux te poser. Là, le maire Marchand veut fermer des patinoires. Là, le tramway, il y a des rumeurs de 13 milliards de dollars. Il y a beaucoup de décisions. Cette poursuite-là, le fait de ne pas vouloir mettre des capteurs pour avoir plus de précision sur la qualité de l'air. Il y a plein de décisions qui ne satisfont pas les gens à l'heure actuelle. Est-ce que c'est propre d'un politicien dans la première année du mandat à voir et tu garoches toute la chenoute pour après ça te reprendre tranquillement et arriver aux élections sur un élan positif?
Bien, c'est pas la stratégie que Bruno Marchand a utilisée dans son premier mandat. Hein. On se souvient, son premier budget, c'était vraiment un budget qui répondait à sa vision. Il y avait... les taxes n'avaient pas augmenté énormément, etc. Donc, il avait donné des bonbons dans la première année, puis après ça, il s'était rattrapé un petit peu au courant du mandat. Là, il est en selle. Là, je pense que ses décisions... des dernières années reviennent un petit peu. Là. Il a pelleté par en avant, là, ouais. Financièrement parlant. Donc ça revient. Mais oui, c'est effectivement une stratégie très bien connue, utilisée très fréquemment par les politiciens, de dire la première année, je fais toutes les affaires qui ne font pas l'affaire du monde, puis après ça, je vais me rattraper dans les trois prochaines années, puis assurer mon élection. Après ça, Bruno Marchand, est-ce qu'il va vouloir se représenter dans 4 ans? Là, tu sais, c'est encore tôt pour savoir. Donc, une autre stratégie qu'il pourrait utiliser, c'est de dire, moi, je veux surtout avoir un leg important pour la ville de Québec. Peut-être que je ne me représente pas dans 4 ans. Je vais avoir fait 8 ans comme maire, puis je vais m'assurer d'avoir réalisé tout ce que je veux réaliser. Fait que ça se peut que ce soit ça aussi, la stratégie derrière ça.
Oui, avec son idéologie, également réaliser le tramway, là, qui est un projet très cher à lui. Alicia Despins.
Quitte à déplaire.
Oui, ouais, quitte à déplaire, évidemment. Alicia Despins, c'est toujours un bonheur de te parler. On se parle mercredi prochain après le conseil municipal?
Oui.
Tu devrais brosser encore.
Oui.
Merci Alicia, je te souhaite une excellente semaine. Salut. Alicia Despins, chroniqueuse politique à On en jase, ex-conseillère municipale pour Vanier-du-Berger. Toujours très intéressante d'avoir ses propos. Elle a été dans le beat pendant 8 ans. Martin qui nous écrit, faut aussi se rappeler que Bruno Marchand, qui militait pour le respect des politiciens et du personnel de la ville, prêché par l'exemple. Hein, t'as entièrement raison, Martin. Et Doom qui mentionne, est-ce que M. Marchand est imbu de sa personne? Est-ce que poser la question et d'y répondre, je pense personnellement que oui, c'est l'image qui dégage Bruno Marchand.
Puis malheureusement, ça revient souvent par texto. Là. Puis là, je tiens juste à le préciser parce que je sais que beaucoup de personnes vont être fâchées que les frais soient payés par la ville. Mm-hmm. Puis il peut y avoir une discussion là. Par contre, je tiens à dire, c'est pas un cas qui est unique à Québec. Là. Lorsqu'un maire, puis il y a certaines lois prévues justement dans la loi gouvernementale pour les villes, les cités. Lorsqu'un maire fait une faute dans ses fonctions, ben la ville, il y a certains mécanismes qui lui permettent d'avoir la ville qui paye pour ses frais d'avocat, puis ça, c'est partout à travers le Québec.
Dans un instant, aucune médaille pour le Canada aujourd'hui. Les hommes commencent le tournoi olympique demain contre la Tchéquie. Surprise, la Slovaquie a battu la Finlande. On parle de ça avec notre excellent chroniqueur sportif, Alex Laramé.
Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1, vous le savez, l'émission d'En jase, c'est de midi à 14h, de 14h à 18h. Denis Véro et Audrey dans le retour de Gravel. On fait un soir à 19h, Marceau le soir, aujourd'hui avec Luc, à 18h, devrais-je dire, avec Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Et écoutez ça, ça va tellement être intéressant. Ça embrasse des affaires aux États-Unis avec Donald Trump.
Gros tour.
Oh oui, ça va être un gros tour d'actualité. Et Marceau le matin qui revient. Demain matin de 6h à 10h avec Marceau, moi-même Jeff Fortin et Max Larouche. Je suis en compagnie de Mathias Turcotte pour cette semaine et la semaine prochaine dans l'émission On en jase. Et durant les Jeux olympiques, Mathias, on va toujours rejoindre notre collègue que j'apprécie énormément du 99.5 Montréal. Il est chroniqueur politique également, pas politique, mais sportif pour Boulevard, Alex Laramé. Alex, comment vas-tu?
Ah, en pleine forme aujourd'hui, les gars, vous autres.
Ah, vraiment en pleine forme. Alex, ça va pas bien, par exemple. Pas encore de médaille pour le Canada aujourd'hui. Va falloir à un moment donné ouvrir la machine.
Ouais, ben il faut dire que les grosses compétitions, je veux dire les sports où on a peut-être le plus de chances, sont pas encore passés. Fait qu'on peut se consoler en disant ça, mais si on est honnête, c'est sûr que c'est probablement pas le début qu'on espérait du côté du Canada, seulement 3 médailles. C'est sûr que lorsqu'on regarde le classement, c'est quand même assez serré. Là. Je veux dire, il y a certains pays comme la Norvège en ce moment sont premiers avec une dizaine et quelques
médailles.
Ouais,
mais là, il y a eu du ski de fond, du biathlon, des compétitions où la Norvège domine là, à l'échelle mondiale.
Ben exactement. Moi, je pense que déjà demain, on va avoir beaucoup de compétitions en patinage de vitesse. On a des bons espoirs de médailles de ce côté-là. Fait que ça va un peu rééquilibrer. On a aussi du ski de boss demain. On sait pas que Kingsbury va nous ramener une médaille là, à moins d'une catastrophe. Mais Julien Vielle, un bel espoir, deuxième aux qualifications. Donc, c'est selon moi, le portrait va s'améliorer. Mais c'est sûr que jusqu'ici, on attend un peu les médailles. On les attend.
Ouais, mais là, Alex, parlons des vraies affaires. Là. Qui veut gagner en ski de fond, en biathlon, quand tu peux gagner médaille d'or au hockey. Là, ça commence demain. Aujourd'hui, John Cooper nous a tout mélangé. Il a dit Brendan Eagle, Sam Reinhart, vous allez jouer avec McKinnon, Suzuki puis Marchand, vous allez aller jouer avec Bo Horvat. On sait plus quoi penser. On sait plus qui va gauler. Mais chose certaine, on a hâte à 10h40 demain matin, à peu près.
Ben oui, tu sais, demain, ça va être contre la Tchéquie. Puis on en parlait plus tôt cette semaine. T'sais, c'était sûr que les trios qu'on avait vus, les premiers trios, ça allait pas rester comme ça. On est encore à la période d'expérimentation. On regarde qui a de la chimie avec qui. On essaie des choses. Tu sais, c'est pas dire que même pendant le match contre la Tchéquie, il va peut-être avoir des changements à même le match pour les autres matchs par la suite. Là, c'est la question de qui va être devant le filet. Tu l'as abordé. Selon moi, ça va être Jordan Bennington, juste par respect, étant donné qu'il nous a quand même amené l'or. Mais tu sais, même lui, on s'attend à voir Thompson dans le deuxième match. Ça, on va se partager le travail. Peu importe les combinaisons qu'on va avoir, selon moi, la Tchéquie, c'est très prenable demain.
Exactement. On va souhaiter une victoire de nos Canadiens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses de notre hockey féminin, Alex? On a quand même mangé toute une varlope hier, 5-0. Les Américaines, avec leur programme de prep school et également universitaire américain, sont vraiment en train de prendre l'ascendant dans le hockey féminin.
Ah ouais, il faut dire qu'hier, on n'avait pas Marie-Philippe Poulin, mais moi, j'ai regardé la rencontre, puis je peux vous dire, c'est pas Marie-Philippe Poulin qui aurait changé quelque chose à ce match-là. On s'est fait déclasser, là, soyons honnêtes. Les Américaines étaient plus rapides. Défensivement, ils sont meilleurs. Même à l'attaque, ils rentraient en zone offensive comme un couteau chaud dans du beurre. Honnêtement, ils sont de loin supérieurs de ce qu'on a vu en ce moment. Puis c'est Martin Leclerc de Radio-Canada qui a amené un point que la plupart, justement, des jeunes joueurs canadiennes vont aux États-Unis, passent par la NCAA pour se développer. On n'est pas capable de les développer à même le Canada, le Québec. Donc, ça remet en question un peu tout le développement qu'on voit au hockey canadien, spécialement du côté des femmes, là, parce que, en tout cas, de ce qu'on a vu à date, on n'est pas de calibre avec les Américaines.
Ah non, hockey Canada, de sérieuses questions à se poser. On va souhaiter que les gars de la Ligue nationale viennent sauver un peu la face parce que ça va pas bien au niveau féminin. Ça n'a pas bien été au niveau junior dans les dernières années. Mathias, Alex, parlez-vous le Norvégien?
Non, c'est je suis moins fluide.
OK, vous parlez pas le Norvégien. Moi non plus, mais écoutez l'émotion de ce biathlète, parce que c'est un athlète du biathlon qui a gagné la médaille de bronze, Sturla Holms Lagred, un Norvégien. Écoutez bien son émotion.
For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe.
Men c'est sûr qu'il est ému. Il vient de gagner une médaille.
Jeg fortalte det for en uke siden.
Il n'a même pas gagné la médaille d'or, il a gagné la médaille de bronze. Imagine ce que ça aurait été s'il avait gagné la médaille d'or.
Il était motif, il aurait pleuré sa vie.
Il n'aurait pas juste pleuré sa vie, là. D'après moi. On ne sait pas ce qu'il aurait dit au micro parce que il y a un peu de controverse avec ce qu'il a dit justement en norvégien. Là. C'est un peu ça l'histoire qu'on tient.
Non, parce que là, en norvégien, moi je comprends le norvégien, là, soit dit en passant, on n'a pas eu besoin de traduction. Okay, là. Puis il a dit qu'il était très, très, très déçu parce que dans le. V'là 6 mois, il y avait la femme la plus extraordinaire avec lui, puis que v'là 3 mois, il l'a trompé, puis qu'il n'est plus à ses côtés, puis qu'il a eu de la misère à se concentrer sur le sport. Aïe, aïe, il a raté une belle occasion de star, notre Norvégien.
Ouais, ben c'est là que je pense qu'on voit que certains sports comme ça, le biathlon, c'est pas des athlètes qui sont exposés aux médias comme par exemple les joueurs de hockey qui sont habitués à sortir la fameuse cassette. Là. Lui vraiment était vraiment au premier niveau. Là. Il vivait ses émotions, dévoilé tout son sac un peu plus. Il nous disait qu'il était allé aux toilettes 30 minutes avant l'épreuve. Là. Honnêtement, il était dans les grandes confidences. Là, ça avait aucun sens. Puis là, justement, la dite demoiselle a répondu aujourd'hui.
Oui.
Parce que visiblement, il y a des médias qui, c'est une trop bonne histoire, ils ont commencé à fouiller. Puis là, elle a dit que, je pense qu'elle s'est sentie un peu humiliée, là, sa place publique. Puis là, elle a dit que non, elle n'est pas revenue avec. Là. Donc, malheureusement, son cri du cœur n'a pas eu l'effet escompté, je pense.
Exactement. Alex Laramie, on se reparle demain aux alentours de 13h20, immédiatement après le match d'équipe Canada contre la Tchéquie.
Ouais, et peut-être qu'on aura des médailles en boss, on se le souhaite du moins.
On va se le souhaiter. Merci beaucoup Alex pour cet excellent résumé. C'est déjà tout pour l'émission. On en jase, on sera de retour demain à compter de midi.
Je veux juste rappeler que le premier match masculin au hockey est terminé. Victoire de 4-1 pour la Slovaquie face à la Finlande. 3 points pour Juraj Slafkovski. 2 buts, 1 passe.
Bravo mon Juraj, vas-y mon ami. C'est l'émission Gravel dans le retour qui suit à l'instant même. Bonne continuité sur nos ondes, guys. À demain.
Bonne journée.